Suite aux dérogations accordées aux chasseurs durant le reconfinement, le GON, groupe ornithologique et naturaliste du Nord et du Pas-de-Calais, s'est indigné face à cette décision. Le 19 novembre 2020, j'ai eu en visio le vice-président du GON, Alain Nassens, également membre de l'association Humanité et Biodiversité, qui nous parle de ces dérogations.
Oui, enfin, on est tous en train de vivre des moments extrêmement difficiles. On est tous confinés et on apprend d'un seul coup que les gens qui veulent chasser la palombe, le corbeau freux, la corneille noire, peuvent s'éloigner de leur domicile à plus de 20 km. Alors que si vous voulez cueillir des champignons, si vous voulez faire du jogging, si vous voulez faire de la randonnée, si vous voulez faire de la photo, vous balader, ben vous êtes limité à 1 km. Donc il y a deux poids deux mesures, surtout pour aller tuer des oiseaux. C'est vraiment invraisemblable. Et d'autre part, vous avez également l'autorisation d'aller réguler, ça c'est le terme à la mode, d'aller réguler le grand gibier. Et donc les gens sont autorisés à faire des battues. Alors évidemment, il y a quelques règles strictes, par exemple pas de repas en fin de chasse, mais ils peuvent se mettre par groupe de 10, de 20, de 30 et de 50 pour chasser. Donc il y a deux poids deux mesures et c'est vraiment des choses qui nous interrogent. J'aime à dire qu'au GON, nous ne sommes pas anti-chasse, mais nous sommes contre les excès de la chasse. Et là, je trouve que vraiment, il y a exagération. On n'est pas tous égaux devant la loi, et ça, c'est vraiment des choses qui nous interpellent.
Vous parlez de régulation inefficace et contre-productive. Finalement, les champs sont en attente, en repos.
Tout à fait.
Mais les chasseurs trouvent aussi la raison de dire c'est pour réguler, pour qu'au printemps, à la belle saison, il n'y ait pas trop d'oiseaux, par exemple, corbeaux, corneilles, qui viennent manger les nouveaux semis.
Bon, alors déjà, là, il faut se mettre d'accord sur le terme de nuisible qu'on appelle maintenant espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc nous, on n'est pas d'accord sur cette classification. Mais les chasseurs vont reprendre la chasse très probablement dans le courant du mois de décembre. Et ce qu'ils n'ont pas tué au mois de novembre, vous pouvez compter sur eux pour les détruire au mois de décembre. Alors, il y a encore de la chasse jusqu'au 28 février, donc on a le temps, hein, on a le temps. C'est pas parce qu'on va pas chasser au mois de novembre qu'on va être envahi de sangliers, de corbeaux, de ramiers ce printemps. C'est vraiment n'importe quoi.
Et pour continuer sur les nuisibles, le renard aussi est considéré comme nuisible, alors qu'il a un rôle aussi lui-même de régulation, c'est ça?
En fait, on met sur la liste des nuisibles, on met le lapin de Garenne et on met le renard. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Le renard mange du lapin de Garenne, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, ça fait des années que toutes les associations se battent pour enlever de cette liste des nuisibles le renard, qui est en fait un auxiliaire précieux à l'agriculture. Un renard mange en moyenne environ 6 000 rongeurs par an, hein, les campagnols essentiellement. Donc soit on utilise le renard pour protéger les cultures, soit on fait l'emploi chimique du bromadiolane, qui est donc un anticoagulant qui va faire crever tous les rongeurs, mais ces rongeurs qui sont morts suite à cet empoisonnement chimique vont être mangés par les prédateurs, que sont des renards et d'autres animaux. Et c'est comme ça qu'on fait disparaître la biodiversité d'une région. Mais, si vous voulez, le chasseur, les nuisibles pour lui sont nuisibles dans la mesure où ce sont des concurrents. C'est-à-dire que le renard mange évidemment et quelques lapins, comme je venais de le dire, il peut aussi manger des perdrix, etc. Donc les nuisibles, ce sont vraiment les concurrents pour les chasseurs, c'est viscéral.
Et concernant les sangliers, d'après vous, les chasseurs qui auraient favorisé aussi la prolifération
C'est vraiment le pompier pyromane. En deux mots, je vais vous expliquer. Moi, j'ai des amis chasseurs, hein, donc vous voyez, les chasseurs raisonnables. Il y en a un qui me disait encore, il n'y a pas très longtemps, Alain, il y a 30 ans, on tuait un sanglier, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus l'élation de sangliers et les choses s'expliquent. C'est-à-dire qu'avec l'apparition de l'agriculture intensive, on a fait disparaître les haies, les bocages, etc. Disparition du petit gibier, les perdrix, les lapins, les faisans, etc. Disparition très, très, très importante. Donc, il fallait se retourner vers le grand gibier. Et le grand gibier, ça a surtout été le sanglier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'en fait, quand vous louez des terrains de chasse, il faut absolument que les chasseurs qui viennent ont ce qu'on appelle les occasions de tir. Donc, il faut que les parcelles soient giboyeuses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour favoriser les sangliers? On l'a agrainé. On l'a agrainé avec du maïs. Le sanglier adore le maïs. Qu'est-ce qu'on a fait également? On l'a élevé. Le sanglier s'est croisé avec des cochons qui ont donné des cochongliers, donc moins peureux et qui avaient davantage de portée. Et lors des chasses, on a chassé les mâles et on a surtout épargné les laies qui étaient porteuses de petits marcassins. Donc, année après année, bah, tout cela a fait qu'aujourd'hui, on est envahi de sangliers et c'est vrai que les sangliers posent problème. Mais les chasseurs aujourd'hui se portent en régulateur des sangliers alors qu'ils sont à l'origine de l'invasion de ces sangliers. Et ça, il faut le dire haut et fort.
Et ben pour continuer sur les espèces, alors nous, la radio, elle est située au niveau des plaines de l'Artois, à Vitry-en-Artois, et on croise très régulièrement au bord de la route des faisans aussi. Il y en a énormément de faisans. Est-ce que il y en a aussi qui sont justement lâchés par des chasseurs? Est-ce qu'il y a aussi ce côté où on peut lâcher même des espèces qui sont presque domestiquées, qui ont beaucoup moins peur de l'homme?
Bah, c'est plus de la chasse, hein. C'est du backtrap sur du vivant. Il faut savoir que 30% des animaux tués lors des chasses proviennent d'élevage. Ce sont notamment des élevages de faisans, de perdrix, de lièvres, de lapins, de petits gibiers. Et donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, je vois qu'on demande dans cette même région, dans le nord du Canada, de réduire la population des lièvres parce qu'ils sont trop nombreux. Et parallèlement à ça, vous avez des élevages de lièvres qu'on va lâcher. Donc il y a un manque de cohérence, un manque de cohérence totale.
Aujourd'hui, Alain Nassens, vice-président du groupe ornithologique et naturaliste du Nord et du Pas-de-Calais, est en visio pour parler des dérogations accordées aux chasseurs durant ce reconfinement. Il nous parle aussi de l'interrogation des habitants des villages.
Ah mais nous, c'était au niveau du groupe ornithologique, on a eu énormément de coups de fil, de messages mail en disant mais qu'est-ce qui se passe? On est en plein confinement et on entend tirer autour de chez nous. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est possible? Donc on a dû répondre et il faut savoir qu'aujourd'hui, deux associations nationales qui sont la LPO et la SPACE, donc la Ligue de protection des oiseaux et l'association pour la sauvegarde des animaux sauvages, ont porté plainte auprès de, je crois, d'une trentaine de départements, déposé un référé pour interdire ces dérogations.
Et la chasse, par contre, au gibier d'eau n'est pas autorisée. C'est ça, parce qu'on a eu
N'est pas autorisé.
voilà,
Oui,
une
parce que maintenant,
manifestation là-dessus des chasseurs de la vallée de la Sensée à Arleux disent qu'ils sont veilleurs sanitaires aussi par rapport à la grippe aviaire et pouvoir du coup chasser dans la vallée de la Sensée.
Oui, alors là, il y a ce concept de chasse loisir et de chasse de régulation qui est un peu particulier. C'est un nouveau concept, hein, parce que la chasse est un loisir, en même temps. Donc, effectivement, il y a une bisbille entre les chasseurs. Les chasseurs, les sauvagiers, on appelle ça, ceux qui chassent à la hutte, le gibier d'eau, ne peuvent pas chasser alors que les chasseurs grand-vivier peuvent chasser. Donc, ça met la brouille un peu entre les chasseurs. Mais, sentinelle sanitaire, on sait très bien que cette grippe aviaire passe essentiellement, vraiment essentiellement, par les élevages de canards ou de volailles, et essentiellement par les appelants qu'on transmet d'une hutte à l'autre, et par les transports, effectivement, d'élevage en élevage. Donc, les oiseaux migrateurs, ben, laissons-les passer, et puis voilà, et gardons-nous de dire que nous sommes des sentinelles vis-à-vis de cette grippe aviaire.
Et vous seriez pour une journée sans chasse aussi, hein. Vous avez dit, vous avez déjà fait la
Ah ben,
demande plusieurs fois.
ouais, je voudrais juste ajouter, puisqu'on parle de la chasse et des prélèvements, qu'en France, on est le pays qui a la période de chasse la plus importante, hein, globalement de fin septembre à fin février, et même au mois d'août, on peut commencer à chasser le gibier d'eau. Et on est le pays également où on chasse le plus d'espèces. Sachez qu'en Europe, la moyenne des espèces chassées par pays est de 20 espèces. En France, on est de 64. Je dis bien 64. Donc nous, je vous le dis, ben moi, je ne suis pas un chasseur, je ne comprendrai jamais pourquoi on enlève la vie à un animal en train de se balader, mais bon, chacun sa vision. Mais ça serait quand même pas compliqué que les chasseurs ouvrent un peu le débat en disant, allez, ok, on peut comprendre un jour sans chasse. Il y a plein de pays qui le font en Europe, et nous, quand on chasse, c'est 7 jours sur 7. On pourrait, même sans demander le dimanche, le mercredi, pour que les gamins puissent aller se balader tranquillement dans leur campagne avec les parents, faire un tour de vélo, etc. Mais même ça, si vous voulez, la porte est fermée, il n'y a aucune discussion possible. Et ça, c'est très dommage.
Et comment ça s'explique autant de chasse en France? C'est une tradition ancestrale, c'est ça? Comment on peut l'expliquer?
On est un pays avec, je dirais, beaucoup de biotopes différents. Hein. Il y a des plaines, des montagnes. On a un nombre de kilomètres de côte qui est important. On est un passage important pour tous les oiseaux migrateurs qui viennent du nord de l'Europe. Et il y a une tradition, effectivement. Mais bon, cette tradition, elle se perd un petit peu à la fois. Il y a 25 ans, il y avait encore 2 400 000 chasseurs. On en a aujourd'hui un petit million. Donc, on sent bien que c'est une pratique qui est en train de disparaître, enfin, peu à peu. Hein. La moyenne d'âge des chasseurs est 55 ans. Donc, il y a toutes ces chasses traditionnelles aussi contre lesquelles on se bat, on a réussi quand même à faire interdire cette année la chasse à la nuit, qui est une chasse cruelle et non sélective. On voudrait bien aussi arrêter de faire ces chasses traditionnelles qui concernent l'alouette des champs, qui est classée vulnérable, la tourterelle des bois, qui est en voie de disparition, alors que les chasseurs continuent à vouloir les chasser. Moi, je rêve, si vous voulez, d'une table ronde avec des chasseurs ouverts qui nous disent, bon, allez, ok, un jour sans chasse, pourquoi pas. Et c'est vrai que les oiseaux qui sont classés vulnérables, allez, on les chasse pas pendant 2 ou 3 ans, on voit les choses ensemble. Mais les dirigeants du monde de la chasse sont campés sur les positions ancestrales et dépassées et on n'a pas de dialogue possible.
Et il y aurait aussi un fort lobby au niveau de la France et même de la région Hauts-de-France.
Dès que Xavier Bertrand est arrivé en 2016, les associations environnementales, on leur a carrément coupé les vivres. Hein. Gonne, par exemple, on nous a coupé les vivres. On nous a mis un gros tampon sur notre association en rouge, hein, en marquant anti-chasse. Donc, je répète, on n'est pas anti-chasse, on est contre les excès de la chasse. Et donc, on est passé d'une aide d'environ, je crois, pour différents dossiers de 80 000 euros à zéro. Bon, il y a plein de choses à dire, mais je réserve ce dossier région pour un petit peu plus tard.
C'était Alain Assens, vice-président du GON, groupe ornithologique et naturaliste du Nord et du Pas-de-Calais, également membre de l'association Humanité et Biodiversité, qui était avec nous en visio pour parler des dérogations accordées aux chasseurs durant le reconfinement. Interview de Jérôme Bailly de Radio Scarbe Sensée.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.